En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Ils sont entrés ensemble dans le dictionnaire comme ils sont entrés ensemble dans l'histoire. Serge et Beate Klarsfeld, un couple, une association, un tandem qui a fait trembler la justice et réveillé l'amnésie. On a d'un côté Beate, née en Allemagne, d'un soldat de la Wehrmacht, et puis de l'autre, Serge, né en Roumanie et dont le père mourra à Auschwitz-Birkenau. D'un côté, un juif, de l'autre, une non-juive, qui sur les ruines du XXe siècle mettent leur vie ensemble au service de la vérité historique, en traînant les anciens nazis devant les tribunaux. C'est donc une rediffusion en sol majeur un peu spéciale, avec aujourd'hui la présence d'un couple icône, qui les dépasse peut-être un peu d'ailleurs. Leur histoire et leur combat pour la paix et la justice est à feuilleter sous le titre « Beate et Serge Klarsfeld, les combats de la mémoire 1968-1978 ».
On évitait de parler de Hitler. Je me souviens d'avoir récité des petits poèmes par cœur à la maternelle pour le Führer avant avril 1945. Je vivais mon enfance dans des ruines et ne savais pas pourquoi Berlin avait été détruite et divisée en 4 secteurs d'occupation. L'univers où j'évoluais était inexpliqué. Ces données se résumaient à « Nous avons perdu une guerre, maintenant il faut travailler ».
Dass dieses Volk einst nicht verweichlicht wird, sondern dass es hart sein kann. Und ihr müsst euch in der Jugend dafür stehlen.
Es.
Ihr müsst lernen, Entbehrungen auf euch zu nehmen, ohne jeweils zusammenzubrechen.
Es kommt Symphonie de l'enfance.
Bonjour à vous Beate et Serge Klarsfeld.
Bonjour.
Bonjour.
Alors c'est passionnant de revenir sur vos tout premiers pas sur cette terre, c'est ce que j'ai fait en lisant vos mémoires. Ce que vous racontez Beate, c'est que, il faut qu'on en parle pour comprendre votre trajet, c'est que vos parents ont comme l'immense majorité des Allemands voté Hitler, est-ce qu'on peut dire en toute innocence ?
Alors, en principe, je pense mes parents plutôt en toute innocence, mais enfin, d'autres étaient certainement voués au nazisme et entrés au parti nazi. Mes parents, mon père n'était pas membre du parti nazi, et quand il était appelé à l'armée, à la guerre, bah, il était très mécontent. Vous voyez, c'était pas un volontaire pour mener la guerre de l'Allemagne contre les autres pays. Donc, vous voyez, aussi, ils n'ont pas compris grand-chose, je crois, comme beaucoup d'Allemands. Hein.
Donc, voter Hitler, ça n'en faisait pas des nazis.
Bah écoutez, il y avait beaucoup, il a eu la majorité, alors il a des voix, alors donc c'était pas tous ceux qui ont voté pour Hitler, c'était des nazis, bien sûr que non.
Vous décrivez une Allemagne après-guerre en ruine, on a tous des images évidemment en tête, et puis vous racontez qu'à partir de 1945, vous vivez à Berlin, dans une petite chambre que vous partagez avec vos parents jusqu'en 1953. Vous avez 14 ans à ce moment-là, Beate. Est-ce que vous avez déjà une conscience de l'histoire, une conscience de la politique ?
Ben non, en principe, je dis, à l'école, on n'enseignait pas la Deuxième Guerre mondiale, on ne parlait pas, disons, de l'Holocauste. Dans l'histoire, dans notre leçon de l'histoire, on n'en parlait pas. Je n'ai rien appris. Si, je me rappelle, on a vu un film Nuit et brouillard, mais sans explication du professeur, bien sûr. C'est que finalement, en arrivant en France, dans un pays qui était occupé par les Allemands, que je me suis renseigné sur le passé de mon peuple. Voilà.
Quant à vous, Serge, qui êtes né en 1935, on va aussi un petit peu croquer vos parents. D'où viennent Raïssa et Arnaud Klarsfeld ?
Bien, mon père vient de Braila, un port sur le Danube en Roumanie. Et puis ma mère, à 100 km de là, elle est russe. Ses parents sont pharmaciens, les parents de mon père sont armateurs. Et mes parents sont venus en France, se sont rencontrés rue de la Huchette dans un dancing, voilà. Et puis... Ensuite, la guerre. Mon père s'est engagé volontaire dans l'armée française. Il était roumain, avec son neveu. Son neveu était tué à côté de lui à la bataille de la Somme. Et mon père s'est évadé de son stalag. Et puis, il nous a rejoints en zone libre. Il nous a emmenés à Nice. Et c'est à Nice que La Gestapo est arrivée en septembre 43. Jusque-là, on était protégés par l'armée italienne et les diplomates italiens qui, eux, étaient opposés à Mussolini, qui, lui, voulait livrer les Juifs aux nazis. Soudain, ils cognent à notre porte. Mon père leur ouvre. Une voix avec un fort accent allemand l'interroge en français. « Où sont votre femme et vos enfants ?» Mon père répond « Ils sont à la campagne parce qu'on vient de désinfecter l'appartement. » Ma sœur souffre d'une bronchite. Pour s'empêcher de tousser, elle prend un mouchoir et s'en sert comme d'un baillon qu'elle se fourre dans la bouche. Les Allemands entrent et entreprennent de fouiller l'appartement. L'un d'eux ouvre la porte du placard. 70 ans après, j'entends encore le bruit des vêtements coulissant sur la tringle.
Extrait en sol majeur de vos mémoires, Beate et Serge Klarsfeld. Alors cette fameuse nuit où votre père est raflé, évidemment, est gravé pour jamais en vous. Et c'est à cette minute, vous dites que vous vous êtes senti juif, Serge Klarsfeld.
Oui, c'est évident, comme tous les enfants juifs qui ont vu arriver des uniformes français le plus souvent, ou des uniformes allemands pour arrêter leur famille. Donc là, je suis un enfant survivant de la Shoah, et mon identité juive, c'est la Shoah. Mon père n'était pas juif pratiquant, il n'a pas fait sa communion juive, la bar mitzvah. Ma mère n'était pas non plus religieuse, donc pratiquante. Donc je n'ai pas reçu d'éducation ou de culture juive. Et donc mon identité juive, c'est ce qui est arrivé à des millions, je dirais, d'enfants juifs pendant la guerre en Europe.
Arrive 1960, vous, Beate, qui êtes très attaché au sol allemand, c'est ce que vous racontez, vous partez à Paris, et comme vous le dit assez joliment votre mère, Paris c'est le bordel de l'Europe. Pourquoi elle dit ça, votre mère ?
Bah oui, en principe, je pense qu'on pensait Paris pour une jeune fille qui part d'Allemagne et s'installe à Paris. Ma mère ne savait pas encore que je vais être fille au père et elle vivait dans une maison d'une famille d'accueil. Bah, à Paris, si une jeune fille va, bah, elle va se laisser entraîner ou je ne sais pas, voilà.
Et puis donc, vous rencontrez Serge sur ce fameux quai de métro le 11 mai 1960, jour de l'enlèvement d'Adolf Eichmann, un des responsables de la solution finale. Il est enlevé à Buenos Aires par les Israéliens le jour de votre rencontre et vous interprétez ça comme un signe, tous les deux ?
Ça n'a touché que moi, pas Beate.
Et oui.
Je n'ai pas échangé avec elle sur le sujet.
C'est vrai que ça ne touche que vous à ce moment-là, Serge Klarsfeld, parce qu'il y a un fossé historique à ce moment-là entre vous deux. Beate, vous dites que vous rencontrez là, ce jour-là, de mai 1960, votre premier juif. Un juif qui, par ailleurs, a perdu son père à Auschwitz.
Oui, bien sûr. Enfin, on avait quelques amis juifs à Berlin, à notre classe. Et mon frère n'en a pas parlé. On ne parlait pas ce qu'ils ont vécu.
Ben, on n'en parlait pas par ignorance,
ben,
par
en principe, ça n'intéressait personne. Vous voyez, je me rappelle seulement quand la professeure demandait « Alors, raconte-moi ta mère, ton père. » Et je me rappelle seulement que pas mal des élèves disaient « Je n'ai pas de père, mais mon père est mort en Russie. » Donc oui, c'était les pauvres Allemands étaient morts en Russie.
Mais alors, c'est comment de rencontrer, comme vous dites, son premier juif quand on est allemande ?
Justement, confronté à ce que Serge m'a raconté, j'ai rencontré ma future belle-mère qui me parlait aussi, justement, de l'arrestation du papa. Bon, je suis née en 39, je ne suis pas coupable, mais enfin, je sentais déjà une responsabilité en tant qu'allemande qui se réveillait en moi, vous voyez.
Quant à vous, Serge, le fait que Beate soit allemande, comment vous vivez ça, vous ?
Bon, j'avais pas particulièrement de préjugés, je veux dire, parce que ma mère avait vécu en Allemagne, mon père aussi, parlait allemand très bien.
Et puis elle faisait la nuance, votre mère, hein, entre les nazis, les coupables
tout à
et
fait.
Les autres.
Elle faisait une nuance et puis elle souffrait même, je me souviens en 44 quand on écoutait la radio, on était réfugiés en Haute-Loire. après l'arrestation de mon père, elle ne se réjouissait pas d'entendre qu'il y avait les bombardements sur l'Allemagne, parce qu'elle avait vécu sa vie de jeune fille, elle était à l'université en Allemagne, donc elle faisait la différence entre une certaine Allemagne et puis une autre Allemagne. Et puis ensuite, moi j'ai eu plus de préjugés qu'elle. Mais ensuite, j'ai lu l'histoire de la Rose Blanche, c'est-à-dire des étudiants catholiques qui n'étaient pas ni nazis ni communistes et qui se sont opposés au nazisme en sachant qu'ils allaient mourir.
Le fameux couple.
Pardon ?
Hans et Sophie Scholl, oui.
Hans et Sophie Scholl, et puis ils ont été décapités à la hache. Bon, je me suis dit que, bon, ils avaient fait un sacrifice, c'était des martyrs. Et que, bon, ce martyr, c'était pour quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'on doit juger les Allemands, bah, chacun sur ce qu'il est, et non pas sur l'étiquette allemande au-dessus de la tête.
L'histoire, effectivement, vous contemplait déjà tous les deux, les archives sommeillant encore et ne demandant qu'à parler.
On arrive de sinistre mémoire dans le camp de Boudjine. C'était aussi un camp des Juifs. Boudjine, quand on est arrivé là-dedans, vous savez, on avait cette impression, nette impression, que si on rejetait un couteau, il serait resté planté dans l'air, parce que la mort, elle rôdait si densément que ça, on le ressentait à chaque pas. Et en rentrant dans le camp, on entendait des gémissements. Il y avait deux messieurs qui étaient pendus par les pieds, deux Juifs. Et nous, on nous amène vers le baraquement de désinfection. On a pris connaissance qu'il avait, il y avait une évasion de 12 personnes. 8 étaient abattus et 4 les ont pris. Alors, les deux, ils étaient pendus avant notre arrivée. Et les deux autres, les Allemands, ils adoraient montrer l'exemple. Vous voyez ce qui arrive à ces deux types-là? Ça vous arrive à la même chose si vous faites quelque chose qui ne convient pas, qui est contre le règlement. On s'est approché vers le baraquement de désinfection. Et là, Fikes met une couverture devant nous. Il appelle un des nôtres. À peine il fait deux pas en avant, il sort son revolver, il l'abat. Ensuite, il tient le discours suivant. Tous ceux qui ont l'argent, les choses de valeur, montrent, posez-le là. Sinon, vous allez ressembler à celui-ci.
Jay.
J comme je me souviens.
Alors en écoutant Benjamin Orenstein, que vous connaissez forcément, ancien déporté issu d'une famille juive polonaise, je me disais en l'écoutant que bien sûr il y a votre histoire d'amour à vous, Beate et Serge Klarsfeld, quand vous commencez ensemble votre vie, mais il y a aussi une fusion commune autour de cet engagement, la cause des victimes de la Shoah qui va germer. À quel moment vous sentez-vous, Serge, que vous devez épouser cette cause absolument ?
En me rendant à Auschwitz pour garder le contact avec mon père, comme je suis historien de formation, j'ai pensé que le mieux c'était de reconstituer la dernière étape de son parcours. Et j'ai décidé d'aller au mémorial du martyr juif inconnu, qui est aujourd'hui le mémorial de la Shoah. Et je suis entré, j'ai trouvé des archives qui me concernaient directement. J'ai pu savoir ce que mangeait mon père à Drancy, comment il est parti. Et ensuite, j'ai voulu aller à Birkenau. On m'a dit, Birkenau, personne n'y va. Et effectivement, je me suis retrouvé, après avoir marché, tout seul dans ce camp. Et c'est dans ce camp, en voyant la rampe d'arrivée, en voyant cet univers concentrationnaire extrêmement impressionnant, je me suis rendu compte que moi aussi j'aurais dû arriver sans le sacrifice de mon père. Et comme j'étais déjà attaché à l'existence de l'État d'Israël, j'étais déjà allé en Israël en 1953, quand j'avais 17 ans, là j'ai décidé que les axes de ma vie seraient la mémoire juive et la défense de l'existence de l'État d'Israël. Bon, cet engagement, Béate l'a eu un petit peu avant moi, quand elle a écrit et a porté à combat un article sur le fait que, en décembre 1966, l'Allemagne s'est donné un chancelier dirigeant de la propagande hitlérienne.
Voilà, alors vous écrivez effectivement dans ce journal de résistance qui a été créé pendant la guerre, Combat, Beate, et vous signez un article à charge intitulé « Le sommeil trouble de l'Allemagne ».
Oui, c'est ça. Oui. Parce que, bon, le premier cri, c'était Kissinger, un propagandiste nazi, peut pas être chancelier. C'était donc ma campagne en demandant qu'il se retire. J'ai fait un tour des universités allemandes avec les brochures. Nous avons envoyé les livres aux parlementaires allemands. Les jeunes étaient un peu découragés parce qu'il y avait des nazis partout. Le premier parlement allemand, ouest-allemand, il y avait 123. Donc, ces nazis, ils étaient partout dans les ministères des affaires étrangères, finances. En principe, c'était la tendance, oublions, voilà. Justement, les campagnes de Kissinger, elle dit à quoi ça sert, il y en a partout. Et le parlement allemand, quand je l'ai rencontré, me disait, mais Madame Clarsfeld, qu'est-ce que vous voulez? Elle était élue démocratiquement. Donc, on a commencé à penser comment on peut manipuler la presse, qui n'en parlait pas non plus d'ailleurs. Et puis.
Et donc, vous avez l'idée de ce geste médiatique incroyable, d'une audace folle?
Ben, c'était d'abord interrompre son discours quand il parlait à Bonn au Parlement. Donc je suis allée sur la tribune des visiteurs. Et puis quand il prenait la parole, ben, je me suis levée. C'est pas facile, vous savez, de me lever. Et surtout, j'étais les bras en l'air pour me faire voir et crier pour Kissinger nazi démissionne.
Et il y a cette interruption effectivement au Parlement allemand, mais il y a cette fameuse gifle qui vous vaut ce surnom de gifleuse de Kissinger. Vous giflez, vous, la petite Allemande, Beate Clarsfeld, le chancelier. Qui a eu l'idée de cette gifle? Vous vous regardez?
Discuté parce qu'on se regarde souvent. Hein, donc, on a discuté ensemble. Quel geste violent, mais en même temps qui n'est pas violent, puisqu'il n'entraîne pas la mort. Et c'était une année où Martin Luther King a été assassiné, Robert Kennedy a été assassiné. Eh bien, on a pensé que, vu l'âge de Béate et vu l'âge du chancelier, Béate était la fille du chancelier. Et la fille qui va gifler son père parce qu'il a donné son intelligence, son énergie au nazisme, eh bien, c'est quelque chose qui ne peut que marquer. Tous les Allemands l'apprendront parce que ça les touchera tous.
Je cherche les notes qui s'aiment. C'est ce que disait Mozart. On dirait qu'il vous a croisé, Mozart. Il a croisé le couple Beate et Serge Clarsfeld. Qui aime Mozart à la maison?
Moi, j'aime Mozart, oui, j'adore Mozart.
Serge, qu'est-ce que vous vouliez me chuchoter à l'oreille sur Mozart?
Moi, je veux dire que je partage cet amour de Mozart avec Adolf Hitler. Adolf Hitler, on dit toujours Wagner, mais il adorait Mozart. Mais la musique n'adoucit pas les mœurs. Je me souviens de Maurice Kling, un déporté survivant, qui racontait comment un dimanche, alors que les SS ne travaillaient pas, trois SS sont allés près des barbelés et ont joué un concerto de musique de chambre. Trois SS particulièrement redoutables. La musique n'adoucit absolument pas les mœurs. Thank you.
Mozart, pour caresser en sol majeur l'âme des vivants, ça se passe avec les époux Klarsfeld, qui ne se quittent pas du regard. Ils sont un peu comme les deux doigts de la main, l'un est né juif roumain, l'autre est né allemande. L'histoire, la grande, la terrible, aurait pu leur dire non. Il suffira en fait juste d'un quai de métro parisien entre eux pour sceller leur destin. Beate dira oui à Serge Klarsfeld et ensemble ils livreront une guerre militante et sans merci pour la mémoire des victimes de l'Holocauste et contre l'antisémitisme. Ils feront ensemble le tour du monde, échapperont à plusieurs attentats, feront de la prison et poseront sur la table des actes qui valent pour sépulture à tous ceux qui sont partis dans la nuit et le brouillard. Les Klarsfeld pour en sol majeur, un couple franco-allemand hors norme. Et voilà ce que ça donne lorsque lui parle d'elle.
De nous deux, c'est Beate la plus fiable et la plus solide. Elle entreprend tout, les petites choses et les plus grandes, avec conscience, intelligence et sang-froid. Elle est une excellente ménagère. Comme profession, elle déclare toujours « Hausfrau », ménagère. Elle peut rentrer de n'importe quelle expédition au bout du monde et le lendemain faire son marché comme si elle n'était jamais partie. Elle sait s'adapter à toutes les situations, toujours aimable et souriante. Elle ressemble en cela à Marlène Dietrich, berlinoise elle aussi, qui est d'ailleurs devenue son amie à la fin de sa vie et que nous considérons comme une des femmes les plus représentatives de son siècle.
Alors comment vous êtes devenue l'amie de Marlène Dietrich, Beate?
Mais bien entendu, je savais, j'adorais Marlène Dietrich, mais j'étais pas, j'avais vu des concerts, mais j'étais jamais en contact avec elle. Je savais qu'elle habitait en Ville-Montaigne, mais au moment du procès Barbie, Marlène a dû entendre à la radio, à la télévision, le procès, et qu'on était justement, j'avais découvert Klaus Barbie démasqué en Amérique du Sud. Alors on avait sur le répondeur, j'entends une voix, ici c'est Marlène Dietrich, et je voudrais parler à Beate Klarsfeld. Et voilà, donc j'ai
rappelé. C'est magique.
C'est magique. Et puis on a échangé des lettres. Et puis donc, c'était pour moi extraordinaire, cette femme que j'ai adorée, parce que c'était quand même elle qui s'est engagée. Elle a quitté l'Allemagne nazie pour aller en Amérique. Elle a fait la campagne avec les Américains.
Et elle a reçu la Medal of Freedom, qui est la plus haute distinction militaire américaine que peut recevoir un civil.
D'ailleurs, plus tard, justement, je me suis engagée pour faire la plaque de Marlène Dietrich au coin de Avenue Liena. Et puis, aussi, justement, j'ai aidé à quelqu'un de faire un film sur Marlène Dietrich. Non, pour moi, c'est vraiment une femme qui m'a inspirée. C'est incroyable parce que c'était quand même pas facile pour une femme qui avait tout pour rester en Allemagne, qui devait aller en Amérique. Ça, c'est quelque chose, je dis, avec Anton Sophie Scholl. Il y a aussi Marlène Dietrich qui, pour les Allemands, est vraiment un exemple extraordinaire.
Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren, öffnen die Mädchen Fenster und die Türen. Ei warum, ei darum, ei warum, ei darum, ei bloß wegen dem Chindrasapundrasasa. Ei bloß wegen dem Chindrasapundrasasa. Zwei fahrende Tücher, Schnauzbart und Sterne, Herzen und Küssen, die Mädchen so gerne. Ei warum, ei darum. Ei warum, ei darum, ei bloß wegen dem Chindrasapundrasasa. Ei bloß wegen dem Chindrasapundrasasa. Ein Gläschen Rotwein und ein Stückchen Braten geben die Mädchen ihren Soldaten. Ei warum, ei darum, ei warum, ei darum, ei bloß wegen dem Chindrasapundrasasa. Ei bloß wegen dem Chindrasapundrasasa. Wenn im Felde blitzen Bomben und Granaten, weinen die Mädchen um ihre Soldaten. Ei warum, ei darum, ei warum, ei darum, ei bloß wegen dem Chindrasapundrasasa. Ei bloß wegen dem Chindrasapundrasasa.
Un petit peu de Marlène Dietrich sur RFI pour En sol majeur dans les petits papiers d'Eklarsfeld, Beate et Serge, couple franco-allemand qui a œuvré, vous le savez, pour donner un autre visage à la justice allemande et française. Si je vous dis Pierre Laval, eh bien là on est page 680 de vos mémoires. Laval étant l'homme fort du régime de Vichy, voilà comment ce maître d'œuvre de la politique de collaboration d'État avec l'Allemagne nazie s'exprimait le 22 juin 1942.
Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout. Ainsi donc, comme je vous le disais le 20 avril dernier, nous voici placés devant cette alternative, ou bien nous intégrer notre honneur et nos intérêts vitaux étant respectés dans une Europe nouvelle et pacifiée.
D comme.
Ou bien nous résigner à voir disparaître notre civilisation.
12 France.
Serge Klarsfeld, chez vous, l'avocat le dispute à l'historien. Vous souhaitiez bien sûr ensemble que le rôle du gouvernement de Vichy dans la solution finale en France soit reconnu. Est-ce que vous diriez, parmi tous les combats que vous avez menés, que ça a été l'un des plus difficiles ?
C'était un combat difficile qui a pris du temps, mais pour cela il fallait aussi élaborer des outils de référence, c'est-à-dire écrire l'histoire de la solution finale en France et bien inscrire le rôle de Vichy dans cette solution finale. Sinon, à la fin du siècle, j'étais sûr que Pétain et De Gaulle seraient ensemble sur un piédestal. Et donc, il fallait montrer les crimes de Vichy. Le crime de Vichy principal, ça a été cette collaboration d'État qui fait que des dizaines de milliers de Juifs ont été arrêtés par la police française, par des fonctionnaires français, et que la France est impliquée par les actes de Vichy, qui était l'État français. Et nous avons pu obtenir, après 15 ans de campagne, militante a déclenché les affaires Bousquet, Le Guay, Papon, Touvier, bien d'obtenir que le président de la République, Jacques Chirac, opère une rupture avec ses prédécesseurs, y compris le général de Gaulle, et disent la France est impliquée dans ce qui s'est passé. Ce jour-là, la France accomplissait l'irréparable.
Est-ce que tous ces procès, du côté de la justice allemande et du côté de la justice française, qui a mis du temps à inculper, par exemple, un Klaus Barbie, coupable notamment de l'assassinat des enfants d'Izieux et du résistant Jean Moulin, est-ce que ces procès vous ont permis à vous, à l'un et à l'autre, Beate et Serge, de vous réconcilier et avec la France et avec l'Allemagne? Est-ce que vous avez eu une phase de désamour avec vos
non,
deux...
Non, pas du tout. C'est parce qu'on aime chacun notre pays qu'on a pu, au contraire, nous avons réconcilié, aidé à réconcilier la France et l'Allemagne. Le procès de Cologne, c'est pas seulement trois personnages importants qui ont dirigé la solution finale en France, Kurt Lischka, Herbert Hagen, Ernst Heinrichson. C'est le contentieux judiciaire entre la France et l'Allemagne que nous avons réglé en obtenant ce procès dont l'Allemagne ne voulait pas. Et pendant ce temps-là, la France nous a laissé agir parce qu'on agissait au nom de la France. Beate agissait au nom de l'Allemagne, moi j'agissais au nom de la France. Et nous avons obtenu satisfaction et la République française nous a toujours été reconnaissante de cette action et de ramener Klaus Barbie en France, de faire tout ce qu'il fallait, le retrouver, le démasquer, le débusquer, le démasquer.
Il faut lire vos mémoires, parce que toute cette traque, vous la racontez très très bien.
L'histoire des Juifs au Moyen-Âge se trouve marquée par une exclusion progressive.
Alors, je suis allée voir votre exposition au Mémorial de la Shoah à Paris. Je la conseille, bien sûr, aux voyageurs et aux Parisiens. Vous m'en voudrez pas, mais je me suis assise à un moment donné dans un petit coin de cette exposition devant un petit écran et voilà ce que j'ai enregistré.
D'autres déchaînements sporadiques se produisent, nourris par des calomnies diabolisant les Juifs. Ils sont non seulement soupçonnés de conspirer contre l'Église chrétienne et de profaner les hosties, mais également d'immoler des enfants chrétiens pendant la Semaine Sainte et d'utiliser leur sang pour la cuisson du pain azim.
On est presque sur le parquet de cette exposition au mémorial de la Shoah. Serge et Beate Klarsfeld, au milieu des objets qui racontent l'Holocauste, et j'avoue que voir l'étoile jaune, par exemple, dans une vitrine, c'est quelque chose. Donc au milieu de ces objets, de ces archives qui retracent l'histoire des persécutions subies par les Juifs dans l'histoire de l'humanité, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on retienne absolument ?
Ben, le visage des enfants, j'ai publié 2 volumes et 5000 visages d'enfants qui ont été assassinés par les nazis. Je crois que c'est une partie du bilan des nazis et de Vichy.
Votre grande œuvre, si j'ose dire, Serge, vous le réalisez en 78, c'est Mémorial de la déportation des Juifs de France. Qu'est-ce que cela apporte aux fils et aux filles des déportés juifs ?
Cela comble une immense lacune. On n'avait pas de listing des déportés. C'était la première fois qu'ils rencontraient non seulement le nom, le prénom, la date, le lieu de naissance de leurs parents, de leur famille. Que dire, c'était une tombe pour eux. C'était une façon d'assumer le deuil et de comprendre, parce qu'ils pleuraient tous les jours la disparition des leurs. Là, ils constataient qu'ils avaient réellement disparu. Et un certain nombre d'entre eux se sont engagés. Ils ont dit, on ne va pas simplement pleurer, on va rejoindre les Klarsfeld pour pouvoir agir en Allemagne, en Autriche également, pour la mémoire de nos familles assassinées.
Alors, je crois que vous n'êtes pas spécialement croyants, tous les deux, mais où est-ce que vous en êtes de la judéité chez les Klarsfeld ? Est-ce que c'est un mot sacré, la judéité ?
Elle n'est pas juive, elle est protestante.
Mes enfants ne sont pas juifs, ma fille est mariée avec un Italien.
Est-ce que vous le regrettez, parce que la judéité se transmet par la mère, est-ce que vous le regrettez ?
Non, pas du tout.
Bah, je n'avais pensé une seconde que Beate allait devenir juive.
J'ai jamais voulu me convertir.
Elle est ce qu'elle est, elle est allemande, elle aime l'Allemagne. Et moi, je suis juif, mais je ne suis pas pratiquant. Notre fille a épousé un catholique. Nous avons fait bénir nos petits-enfants par les deux papes, successivement.
C'est chic.
Les deux papes vivants. Alors, vous voyez, c'est...
C'est une question qui se pose, quand on vous lit, il y a des moments, des pans d'histoire qui sont saisissants. Golda Meir, ancienne première ministre israélienne, a eu cette phrase à votre sujet, Beate, « Son humanité passionnée l'a conduite à s'identifier aux Juifs ». Donc on peut vous la poser cette question, est-ce que vous vous sentez juive ou appartenir, pour être plus précise, au peuple juif?
Si j'étais juif, je n'aurais pas pu faire ce que je fais. Vous voyez, un juif qui a giflé le chancelier nazi allemand, ça aurait été un acte de vengeance. Vous voyez, moi j'ai toujours agi comme une Allemande qui sent la responsabilité de son pays, voilà, c'est ça. Et puis je me suis engagée, bien entendu, pour Israël. J'étais d'ailleurs Menachem Begin quand je l'ai rencontré en Israël. Si vous êtes la première Allemande à qui je serre la main. Donc je me suis engagée aussi dans les pays arabes, en Alger, au Maroc, où je dis qu'il faut trouver une solution de paix entre les pays arabes et Israël. Donc je me suis toujours engagée parce que c'est le rôle aussi d'une Allemande, vous voyez, de se battre où les Juifs sont poursuivis. Je le fais à Beyrouth.
Donc votre rôle d'Allemande, c'est jusqu'au bout.
Nous avons reçu la citoyenneté israélienne par décision du gouvernement israélien.
Qu'est-ce que vous avez ressenti alors ?
C'est une fierté quand même, parce que bon, il y avait un pont entre l'Allemagne et Israël avec les réparations, mais là, c'était vraiment une action d'une Allemande qui s'engage pour le peuple juif. Voilà, c'était autre chose.
J'ai eu peur de mourir. Mes compagnons les plus âgés ont été tués. Beaucoup ont été tués. C'est pour ça que nous nous sommes enfuis.
La fuite ou la mort, c'est le choix qui s'offre à ceux soupçonnés de s'être opposé au troisième mandat de Pierre Kourounziza.
J'ai tout laissé derrière moi.
Cette famille a marché toute la nuit.
Je suis comme ça, sans papier, sans rien.
J'ai fui le Burundi parce qu'il y avait des imbonères à courir.
Laura,
il venait nous attaquer à la maison. Je me suis enfuie dans la rue et un homme m'a récupérée et m'a fait venir ici.
Deux bus partiront vers le camp de Tuka.
Quand je me rappelle de ce qui s'est passé, j'ai très mal au cœur et j'ai très très peur.
Ah, comme, arrête sur image.
Avec ces convois de Burundais, donc une archive de France 24 qui date de janvier 2017, ces Burundais qui aujourd'hui tentent de rentrer chez eux où ils risquent la mort. Et je crois savoir que vous avez effectué il y a quelques mois une mission au Burundi, Beate Klarsfeld. Qu'est-ce que vous y avez fait là-bas?
On était nommé par l'UNESCO, Serge et moi, ambassadeur honoraire pour l'enseignement de l'histoire de l'Holocauste et aussi pour prévenir les génocides. Donc j'ai lu les crimes en Burundi, j'ai dit donc c'est un rôle que je peux remplir. Et puis j'étais heureusement accueillir, la porte est ouverte parce que j'ai rencontré l'opposition aussi, les gens du gouvernement. Et donc j'ai pu rester une semaine à Bujumbura et c'était pour lancer un cri d'alarme contre cette tuerie horrible. Je l'ai vu sur place, j'ai vu les gens qui traînaient dans la rue, les enfants, les mamans qui venaient pour vendre les fruits là. Et aussi ce que j'ai vu, cette police, la milice, mais aussi c'est pas seulement la milice, ce sont des jeunes qui sont engagés par la milice et qui tue. Et puis j'ai entendu beaucoup de témoignages, donc je vous dis, c'est un pays où chaque jour il y a des gens qui disparaissent.
Donc là où se trouvent des opprimés, le couple Klarsfeld se lève forcément pour tous les opprimés de la Terre.
On essaie de faire un maximum, mais on ne réussit pas.
On ne peut pas tout faire. Et bon, on choisit
en fonction de quoi?
Les terrains, mais on est dans un monde qui a changé beaucoup.
Je sais que vous êtes intervenu pour les Juifs iraniens, vous êtes intervenu aussi pour les Roms. Oserais-je vous emmener maintenant dans un camp libanais où se trouvent des réfugiés palestiniens?
ولا بال 48 كان في مقاومه فلسطينيه.
En 1948, il y avait une résistance palestinienne dans la quasi-totalité du pays.
يعني اغلب البلاد وقاومنا بس.
Tu vois, on a résisté. On a résisté, mais comment?
هذلاك ما عندهم دبابات وطيارات وكذا.
Eux, ils avaient les chars, les avions. Ils avaient tout. Après, ils ont commis le crime de Deir Yassin et les gens sont partis. Et nous sommes de ceux qui sont partis vers Shfar Amal et puis vers le Liban.
Ça s'est passé comme dans un film de cinéma. On était petits et il y avait des boucheries. On s'est dirigé vers Tarshiha. À Tarshiha, il y avait des avions qui ont distribué des tracts. N'ayez crainte, ô Arabes, nous voulons vivre avec vous. Même pas 2 heures après, des avions sont venus nous bombarder. La tante de mon mari est morte. Il y a eu plus de 40 morts dans la mosquée de Tarshiha. Ils sont morts d'un seul coup. Je te raconte ce que j'ai vu. Je ne l'ai pas entendu. Nous avons fui. On est venu ici à pied. Et encore, les Juifs sont descendus dans la vallée. À chaque fois qu'ils rencontraient des jeunes, ils les tuaient. Les gens étaient terrorisés. Nous sommes des victimes des pays arabes et des États-Unis qui parlent de liberté.
Pour un seul majeur, la voix de quelques réfugiés palestiniens, ils sont 5 millions aujourd'hui qui vivent dans les camps, libanais notamment, dans de terribles conditions. Est-ce que vous, Beate et Serge Klarsfeld, qui incarnez donc ce désir, cette idée de justice et de paix pour tous les opprimés, vous arrivez à entendre la souffrance du peuple palestinien?
On les entend, mais ces souffrances, d'abord, nous avons entendu des récits qui sont extrêmement critiquables. Ils avaient des chars, ils avaient des avions, ils ont bombardé. Les Juifs n'avaient pas de chars, ils n'avaient pas d'avions. Et par contre, ils ont été attaqués par 5 armées arabes. Et les États arabes, dont ces réfugiés palestiniens disent nous sommes aussi victimes d'eux, eh bien, ces États arabes leur ont recommandé de partir. Et ils sont partis, tout simplement. Les souffrances des Palestiniens pourraient, si les États arabes et les Palestiniens reconnaissaient l'existence sans réserve de l'État d'Israël, elles seraient réglées en 5 minutes. Hein. Israël est toujours prêt à discuter, est toujours prêt à négocier, toujours prêt à faire des compromis.
Sur Jérusalem, en ce moment, on n'a pas l'impression que c'est un acte...
La France ne risque pas, ni l'Allemagne, de disparaître, hein, même après avoir commis ce qui a été commis par l'Allemagne hitlérienne, eh bien l'Allemagne n'a pas disparu et l'Allemagne est redevenue l'Allemagne.
On pourrait poser la question autrement. S'il n'y avait pas,
risque de disparaître.
Vous avez toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête quand vous parlez de ce conflit moyen-oriental.
C'est un tout petit pays, Israël.
Mais très puissant, extrêmement puissant. S'il n'y avait pas le Hamas et le discours qui va avec, effectivement, et qui désire supprimer de la carte du monde Israël, est-ce que vous pourriez dénoncer certains actes du gouvernement israélien? Parce que, est-ce que vous reconnaissez
quels
qu'il y a... Par exemple, quand on a une Ayelet Shaked du parti ultranationaliste Jewish Home, qui est l'actuel ministre de la Justice et qui a une politique assez dure, qui a appelé il y a quelque temps au meurtre de toutes les mères palestiniennes qui donnent naissance à des petits serpents, c'est ce qu'elle avait fait paraître sur son Facebook avant de le faire disparaître.
De toute façon, il y a une Cour suprême.
Est-ce que la gifleuse de Kissinger, vous pourriez vous lever pour dire...
Je ne connais pas ce cas, et puis en principe, je dis non. J'étais souvent en Israël, et quand même, c'est un État qui était sorti de la Shoah, qui s'est construit, les survivants sont venus pour être en sécurité.
On sent bien qu'on est vraiment sur un terrain absolument émotionnel, et à la lumière du trajet qu'on a raconté, vous concernant, vous, Beate Klarsfeld, l'Allemande qui a lavé finalement la conscience de l'Allemagne, est-ce qu'en soutenant les Palestiniens, si ça devait arriver un jour, vous auriez l'impression, vous l'Allemande, devenue citoyenne israélienne, vous auriez la sensation de trahir finalement les Juifs qui vous ont accueillis, qui vous ont adoptés?
Non, pas du tout, mais il faut que ce soit pour une juste cause, vous voyez. Si au moment où on reconnaît l'État d'Israël, ben, je peux m'engager de ce côté-là aussi, mais pour le moment, non.
Donc les Palestiniens, ce n'est pas une juste cause?
C'est une cause dans laquelle on n'est pas impliqué.
On n'a pas un combat universel, on n'a jamais dit qu'on était des combattants pour toutes les causes. Si on était combattants pour toutes les causes, on serait dans la violence, puisque comme toutes les causes s'entrechoquent, eh bien on ne peut pas être combattant d'un universalisme naïf, bêlant, etc. Il faut choisir ses causes.
Alors on va se détendre un petit peu et puis finir sur le canapé des Klarsfeld. Ça ressemble à quoi chez vous, à la maison?
Pardon?
Le canapé devant la télé, c'est Serge, moi et chienne et chat.
Il y a peut-être aussi dans cette maison des souvenirs en forme de musique peut-être.
Die Kugel Nummer 1 kam aus Springers Zeitungswald. Ihr habt dem Mann die Groschen auch noch dafür bezahlt. Ach Deutschland, deine Mörder, es ist das alte Lied. Schon wieder Blut und Tränen, was gehst du denn mit denen? Du weißt doch, was dir blüht.
Amor is given. Am meisten, die Meise ist gar nicht freilich, die Meise hebt sich ohne mit der jüdischen Meilech. Lulin käm ein Fegele, Lulin käm ein Kind.
Une petite Madeleine de Proust en sol majeur, un petit mélange de ce que vous avez peut-être entendu en enfant ou adolescent, du russe et du yiddish pour vous, Serge. La langue maternelle chez vous, c'était quoi?
Le russe. Le russe, la première année, je l'ai passé de ma vie en Bessarabie. Aujourd'hui, c'est la Moldavie. Et ma mère était dans sa bourgade de Bessarabie et c'était plus facile pour elle. Elle y avait des domestiques et ensuite, au bout d'un an, elle est rentrée à Paris.
Cette langue russe s'est perdue en route?
Non, elle s'est pas perdue. Je comprends le russe, mais je parle mal et puis j'ai pas l'occasion d'en parler. Ma sœur est agrégée de russe. Elle, elle parle russe.
Et le yiddish ?
Le yiddish, non, pas du tout. On ne parlait pas yiddish à la maison. Ma mère savait le, parce que sa grand-mère lui parlait en yiddish, mais ma mère a suivi les cours en Russie, même à Odessa, et donc le russe était sa langue maternelle.
Mais vous n'avez pas eu cette tentation de préserver cette langue, le yiddish par exemple?
Oh, je ne peux pas tout faire, hein. je ne peux pas faire les livres d'histoire, écrire, militer.
Pour vous, Beate, on a mis un petit peu sur notre pick-up un certain Wolf Biermann, c'est qui?
C'était un opposant, enfin il était un Allemand de l'Est, il était opposant, et puis c'est lui qui, après l'attentat à Brody Dutch, qui a fait cette chanson extraordinaire.
Qu'est-ce que c'était comme attentat?
Par un néo-nazi qui a tiré sur lui, et puis dans Dreikugel en Brody Dutch, que voilà.
Mmh. Alors j'ai vu que Günter Grass, le grand écrivain allemand, que vous avez rencontré, que vous avez sollicité, enfin vous vous êtes croisé dans vos nombreux engagements, vous trouvait dès 1968 déjà très francisé. Et vous vous sentez comme ça, très francisé, vous?
Ben, écoutez, l'allemand, c'est ma langue maternelle, mais je vis depuis 60 en France, ma famille est en France, donc non, je suis allemande et française, mais j'agis toujours en tant qu'allemande.
En sol majeur, @rfi.fr.
Au générique de cet En sol majeur, sur un livret de Mozart, pour se dire au revoir, un livre de poche, Mémoire de Beate et Serge Klarsfeld, c'est un livre à lire ou peut-être à relire. En sol majeur, avec Facebook, Twitter et en podcast sur notre application Pure Radio, bien sûr derrière votre poste, chaque samedi, chaque dimanche, à 14h10 temps universel, 15h à Paris. Sophia Bédard, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve et on vous espère demain avec Aïssa Tassek. À demain.